Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, pauvreté, pouvoir d'achat, emploi, la statistique à l'épreuve de la vie quotidienne, les explications du rapport annuel de la pauvreté 2022 par le Secours catholique, en compagnie de Marie-Thérèse Briand, la présidente du Rhône de l'association. Agglo Villefranche-Beaujolais-Saône, suivi des travaux d'aménagement du tracé de la voie bleue entre Beauregard et Saint-Bernard. Nous sommes en compagnie de Sophie Guyonnet, responsable mobilité à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône. Et en conclusion, harcèlement scolaire, cyberharcèlement, l'association Hugo en soutien. Nous avons rencontré Hugo Martinez, président de l'association. Calade, le journal. Qatar, le mondial 2022 dans les cimetières, titrait Ouest France en mars 2021. Dénonçant la construction des stades pour la Coupe du Monde 2022 qui a entraîné la mort de milliers d'ouvriers étrangers contraints de travailler par des chaleurs excessives. Les cercueils de la honte pour TheFoot.com, un article du 9 novembre dernier. Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, bien chahuté. De surprise en surprise pour une Coupe du Monde à peine commencée. Coup de théâtre, le Qatar interdit finalement la vente d'alcool. À ta santé. Alcool, sexe, drogue, rock'n'roll, le Qatar, une seule réponse, l'abstinence. Car l'émirat fait appliquer l'interdiction des relations sexuelles hors mariage lors du tournoi. Les relations sexuelles et les marques d'affection. Que ce soit pour les joueurs et les supporters, il n'y aura certainement pas d'aventure d'un soir lors de ce tournoi. Il n'y aura pas de fête du tout. Les signes d'affection ou de tendresse en public, comme le fait de s'embrasser ou de s'enlacer dans la rue, sont prohibés. L'émirat compte bien faire appliquer aux visiteurs étrangers, joueurs comme supporters, les lois qataries en vigueur et applicables à tous lors de ce mondial. Bonne séance, comme il se doit, quand on est bien élevé. Pour rappel, le Qatar est une monarchie autoritaire où les partis politiques sont interdits et où de nombreuses lois liberticides sont en vigueur. Faut-il le savoir? Un gros mot, l'homosexualité. Au Qatar, le mode de vie de la communauté LGBT est strictement interdit, comme le rappelle Amnesty International. Le code pénal établit que les relations homosexuelles sont des infractions passibles de peine, pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. La peine de mort peut même être appliquée pour les musulmans en cas de condamnation. Et pour la question vestimentaire concernant tout particulièrement ces gentes dames, pour la conclusion, les habits occidentaux sont tolérés, pourvu que les épaules et les genoux soient couverts. Pas de jupe au-dessous du genou, ni de short, pas d'épaules nues, ni de décolleté profond, et les vêtements moulants ou suggestifs sont considérés comme inappropriés. Peut-on lire sur le site de Doha Accueil. Autant de choses à connaître pour les supporters et supportrices. De quoi au Qatar aller se rhabiller. Pauvreté, pouvoir d'achat, emploi, la statistique à l'épreuve de la vie quotidienne, rapport annuel de la pauvreté 2022. Le Secours catholique dresse un état des lieux de la pauvreté. Nous abordons la question de l'emploi et du budget des familles avec Marie-Thérèse Briand, la présidente du Rhône de l'association. Elle est jointe par téléphone.
Les personnes qui ont l'autorisation de travailler en France, souvent ont des activités. Alors ça peut être l'aide à la personne, ça peut être des activités de nettoyage, ça peut être certaines activités dans l'industrie. Hein. Parfois, c'est du travail aussi à temps partiel qui n'est pas choisi, mais qui est là. Et souvent, pour les femmes, on sait que c'est souvent des choses qui s'imposent un peu aux femmes, pas nécessairement parce qu'elles le veulent, mais aussi parce que l'organisation du travail est faite comme ça. Et puis, il y a aussi une proportion... Alors, c'est assez vrai à Lyon, ça l'est peut-être un peu moins en milieu rural, ça l'est un peu moins, mais une proportion dans les accueils que nous faisons de personnes étrangères qui n'ont pas de statut et donc pas d'argent, pas de revenus, et qui représentent au niveau national, ça représente 47% des personnes reçues, donc pratiquement la moitié, hein, des personnes reçues par le Secours catholique, de gens qui sont sans droit, donc sans aucun revenu. Et ça pose un vrai problème. Alors, le Secours catholique fait partie de collectifs qui interrogent le gouvernement à ce niveau-là, parce que ça produit de l'exclusion, ça produit un espèce de chômage forcé qui est extrêmement négatif pour la famille, naturellement pour les enfants qui en font partie de ces familles. Et moi, je crois que ça contribue à entretenir un climat un peu de suspicion dans notre pays qui n'est pas bon. parce que les gens qui viennent ne sont pas des gens qui demandent à ne pas travailler et à bénéficier d'allocations, d'ailleurs, dont ils ne bénéficient pas, sinon pas de titre de séjour. Enfin, on est sur une question très compliquée dont l'Europe se saisit, dont ce que le Secours catholique au niveau national fait remonter, et qui a la vie dure. Et je crois qu'il crée des tas de situations très tout à fait déraisonnables et qui engendrent beaucoup de malheur pour les gens qui les vivent.
Très bien. Je vous avançais un petit peu la question que je voulais terminer avec vous, Marie-Thérèse Briand, effectivement. Le constat, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une enquête, finalement, à tirer des statistiques et faire des constats, mais peut-être aussi à préconiser de nouvelles perspectives ou de demandes auprès des autorités pour que les choses changent, ou sur quel niveau vous êtes, en fait?
Oui, alors au niveau national, et nous on est solidaires de cela, par exemple avec d'autres collectifs auxquels le Secours catholique appartient, il est demandé une revalorisation des minima sociaux. Revalorisation non pas pour dire on va assister des gens, etc. Le problème n'est pas là. La question est de dire on donne à des personnes qui n'ont pas autre chose un revenu décent pour que ces gens-là prennent leur place dans la société et se mettent à vivre une vie plus décente et à avoir d'autres perspectives, y compris dans le travail quand ils le peuvent, vous voyez. Donc, il est demandé une revalorisation des minima sociaux de 40%. Donc, ça veut dire une progression du RSA. C'est essentiellement le RSA aujourd'hui qui est le minima social qui aide à vivre quand on n'a pas d'autres ressources. Revalorisation donc des APL, ça c'est à voir. Enfin, bon, mais ça fait partie des choses importantes aussi. Si les aides au logement ne sont pas suffisantes, on est sur quelque chose après qui devient très fragile pour les personnes. Prise en compte de l'augmentation des dépenses d'énergie, parce que il y a quelques chèques qui sont donnés, vous le savez comme moi, donc il y a des chèques qui ont été distribués, d'autres qui le seront, mais on se dit qu'il faut prendre ça de façon très, très sérieuse, en tout cas dans la période de crise où on est, parce que quand arrivent les factures de régularisation, les personnes se trouvent tout à fait endettées, parfois pour des mois, voire des années.
Plus d'informations sur le rapport annuel de la pauvreté 2022, secours-catholique.org. Voie bleue, travaux d'aménagement du chemin de halage entre Beauregard et Saint-Bernard, l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, par la voix de Sophie Guyonnet, responsable mobilité à la communauté d'Aglo, nous invite à suivre les travaux du tracé de la future voie bleue des communes de Beauregard à Saint-Bernard. L'aménagement devrait être mis en route entre 2022-2023.
Oui, tout à fait. Donc, ce tracé qui compte 3,9 km donc commence au niveau du pont de Beauregard. Donc, il s'agit d'un itinéraire qui est composé soit de sable, soit de stabilisé renforcé, soit de l'enrobé végétal liant, qui se trouve notamment au niveau de l'embarcadère. La largeur de cet itinéraire varie en fonction de certaines portions, entre 3 mètres de large et 4 mètres de large.
Donc là, sur la partie Jassan. Hein.
Sur la partie Jassan, tout à fait, sur la commune de Jassan-Rayotier. Et également une portion, après la RD 933B, sur lequel l'aménagement cyclable sera légèrement rehaussé sur un talus, afin de s'éloigner un petit peu de la Saône et pouvoir permettre une largeur là aussi entre 3 et 4 mètres selon les portions.
Donc un mix surélevé,
oui, tout à fait. Et ensuite on poursuit donc toujours avec un alternat, donc en fonction de la crue, soit de stabilisé renforcé, soit de sable, qui est en continuité avec ce qui est réalisé actuellement sur l'autre communauté de communes. Donc nous arrêtons à la limite de la commune de Saint-Bernard et qui se poursuit en sable comme notre partie sur Jassan-Rayotier.
Donc de la communauté de communes dont le Saône-Vallée. La voie est toujours tout le long de la Saône.
Tout à fait, c'est un réaménagement du chemin de halage et surtout la sécurisation de ce chemin de halage pour accueillir à la fois les piétons et les vélos, d'où le statut de voie bleue et de voie verte.
En totale continuité, pas de surprise.
Alors, une légère, donc actuellement, une discontinuité qui sera en tout cas et qui est déjà à l'étude pour être réalisée en 2023, qui se situe au niveau de la société Vika, donc avec un itinéraire provisoire qui sera fléché sur quelques mètres le temps de la fin des négociations qui sont actuellement en cours.
et donc qui devrait réintégrer une voie.
Tout à fait, donc un aménagement cyclable qui sera prévu sur le long des parcelles de Vika, avec nécessitant une démolition aujourd'hui d'une partie d'un bâtiment de Vika pour rattraper ensuite l'aménagement au niveau de la départementale RD 933B dont je parlais tout à l'heure, qui se situe juste devant l'entrée de Vika.
Voilà, et qui réalisera et comme qui ça une véritable
continuité globale, tout à fait,
globale
de l'aménagement de 3,9 km. Oui, voilà, tout à fait.
Les travaux d'aménagement concernent les 3,9 km de chemin de halage compris entre Beauregard et Saint-Bernard, avec la traversée de Jassan-Riotier. Il s'agit d'assurer la continuité de l'itinéraire de la voie bleue qui s'étend sur 706 km entre le Luxembourg et Lyon, le long de la Moselle, du canal des Vosges et de la Saône. Harcèlement scolaire, cyberharcèlement, chaque année, un enfant sur 10 est victime d'harcèlement scolaire. L'association Hugo, association de lutte contre le harcèlement, apporte leur soutien au public, comme nous l'explique Hugo Martinez, président de l'association, lors d'une rencontre à l'hôtel de ville à Villefranche-sur-Saône. On l'écoute.
Hugo, parce qu'on le prononce Hugo, c'est le H de harceler, parce qu'on s'adresse en premier au harcelé. C'est le U de you à l'anglaise et le go de on avance, en fait. Parce qu'il y a vraiment la volonté de transmettre un message d'espoir, de dire harceler, on avance. Mais c'est aussi le H de harceleur, parce que les harceleurs, ce sont des jeunes qui sont eux aussi en souffrance. Et on leur ouvre la porte, en fait, on est prêt à les aider au final pour se reconstruire, s'en sortir et justement leur permettre d'éviter de se retrouver dans la position d'intimidateur, d'harceleur en fait.
Voilà. L'association Hugo, parce que vous-même, vous avez été victime d'harcèlement, hein, c'est bien ça?
C'est ça, moi j'ai été victime de harcèlement scolaire de 6 à 18 ans et c'est à partir de cette volonté-là de dire que j'ai trop souffert pour rester inactif, que j'ai trop souffert pour laisser les choses en état, que j'ai choisi de devenir acteur de ce changement et d'aider les jeunes d'aujourd'hui, qui sont les adultes de demain, à, si ce n'est éviter de vivre ce que j'ai vécu, en tout cas de les aider à se reconstruire et de s'en sortir, en tout cas.
Alors, vous avez fait en quelque sorte un bilan de ce que vous avez vécu, vous avez mis des curseurs, je ne sais trop comment dire, et petit à petit, vous essayez en quelque sorte de donner une méthode, peut-être des premiers signes, jusqu'à effectivement un peu les situations qui s'enfoncent en quelque sorte avec toutes les personnes d'ailleurs qui sont concernées par ce harcèlement. Voilà.
Exactement, exactement. Et cette volonté-là, en fait, elle est de dire qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est d'agir sur tous les leviers, au final, du harcèlement scolaire. De plus en plus, je pense que c'est vraiment le cas pour tous les acteurs qui sont engagés dans cette cause, les leviers sont multiples. Ça va de la sensibilisation de tous les publics, que ce soit les scolaires, les professeurs, les parents, à l'accompagnement des victimes et de leurs familles, mais aussi ça passe par de la formation, former le corps médical, du coup, pour accompagner en séance, en consultation, les victimes, en passant au corps enseignant, au corps éducatif, mais aussi les corps socioculturels, donc sur le temps du périscolaire également aussi, pour former tous ces personnels-là qui sont en contact avec les jeunes. Mais c'est aussi avancer à l'échelle législative, hein, travailler sur le projet de loi École de la confiance pour instaurer le droit à une scolarité sans harcèlement scolaire dans le code de l'éducation. Donc de plus en plus, au fur et à mesure des mois où j'avance dans l'évolution de cette association et de cette cause, je me rends de plus en plus compte qu'en fait il faut agir sur tous les leviers pour un phénomène comme celui-ci, parce que c'est en activant tous ces leviers qu'on pourra faire évoluer la cause.
À ceux qui nous écoutent, les parents, mais aussi peut-être les enfants, hein, les ados, etc., ou même aux parents qui ont un enfant hein, qui est même peut-être harceleur, quels sont peut-être les conseils?
Déjà, la première chose, c'est que le harcèlement scolaire, ce n'est pas une fatalité. Qu'on soit harcelé ou harceleur, ou parents de harcelé ou harceleur, on peut s'en sortir. Ce qui est important, en effet, c'est d'inciter les enfants, les jeunes à parler. Parce que c'est la première étape d'une progression, d'une issue de cette souffrance. Et donc, eh bien, je pense que le premier conseil que je dirais, c'est à tous les jeunes, en fait, au final, c'est de, ça paraît dissocié de ce sujet, mais de croire en leurs rêves, en ce qu'ils ont envie de faire, parce que c'est ce qui leur permettra d'y aller toujours. Confiance en eux, de garder toujours confiance en eux et de l'estime de soi. Et c'est par ce biais-là que quelques jeunes qu'ils soient harceleurs, harcelés, témoins, victimes, etc., qui pourront s'en sortir et se reconstruire et espérer une vie future positive.
C'était Hugo Martinez, président de l'association Hugo, association de lutte contre le harcèlement scolaire et cyberharcèlement. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade. notre page Facebook. Très bonne continuation sur Canada.